Quelle joie d'être avec vous ce matin pour cette réunion du dimanche matin tellement privilégiée. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Pasteur Claude pour la confiance qu'il m'accorde avec la prédication de ce matin. Et j'ai vraiment un message qui est fort sur mon cœur. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte d'entendre la parole de Dieu ce matin? Alors, ce que je vous propose, c'est que dès le début de ce message, on puisse rentrer au cœur du message. Mais avant ça, j'aimerais vous amener avec moi dans une mise en situation. J'aimerais commencer ce message par une anecdote, un fait divers qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques mois. Et pour ça, j'ai eu besoin de vous amener voyager. Donc, pendant un instant, oubliez le Québec, oubliez les moins 15 degrés, les moins 20 degrés. Vous êtes dans le sud. Combien ont envie d'être dans le sud en ce moment ? Vous êtes dans le sud, dans un hôtel, il fait beau, il fait chaud, sable blanc, sable fin, on est bien, nourriture à volonté, des vacances de rêve. Vous avez laissé les enfants à la nounou, vous pouvez faire des nuits complètes, la vie est belle. Au bout de 2 semaines, il est temps de rentrer. Comme toute bonne chose, toutes les bonnes choses ont une fin. Au bout de 2 semaines, il est temps de rentrer à la maison. Et là, alors que vous rentrez chez vous, vous prenez l'avion, vous arrivez, vous êtes fatigué, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous mettre en mou chez vous, dans votre sofa, et de vous reposer de votre long voyage. Et alors que vous arrivez chez vous, il y a une surprise, votre maison n'est plus là. Votre maison a totalement été détruite et démolie. Et la seule chose qui reste de votre maison, c'est cette image en arrière. Et là, vous vous dites, ok, mais Thomas, je vois pas où tu t'en vas avec ton histoire, parce que ça, c'est impossible que ça arrive. Figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé à une Américaine au mois de novembre dernier qui s'appelle Susan Hudson. Ça fait le tour de la presse aux États-Unis. Alors qu'elle revenait de vacances, elle a trouvé sa maison totalement démolie, totalement détruite, alors qu'elle n'avait rien demandé à personne. Son hypothèque était payée, son assurance était payée, et tout a été démoli. Et le pire, c'est que lorsqu'elle est allée voir l'entreprise de démolition qui a démoli sa maison, la seule chose qu'ils ont pu lui dire, c'est « Madame, on est vraiment désolé, on s'est trompé d'adresse. » Imaginez-vous, tous ces objets de valeur, toute sa maison, tous ces biens qu'elle ne pourra jamais plus avoir simplement parce qu'ils se sont trompés d'adresse. Tu peux te tromper d'adresse pour du courrier, pas pour démolir une maison. Autant dire que son retour à la maison ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Quand tout ne se passe pas comme prévu ». Parce que si vous avez plus de 4 ans dans cette salle, vous savez que dans la vie, les choses se passent rarement comme on les avait prévues. Et on peut tous appliquer cette réalité-là à un ou un autre domaine de notre vie. Peut-être que tu es dans cette salle ce matin et tu pensais qu'à ce stade de ta vie, tu serais rendu à un autre stade dans ta carrière. En ce moment, tu es dans un emploi qui ne te convient pas, tu n'as pas l'impression d'être évalué à ton plein potentiel, tes conditions de travail sont difficiles. Tu disais, moi, il me semblait que quand j'avais ma carrière en perspective, dans la vision que je voulais, c'est pas ça que j'imaginais. Peut-être que tu es ici et en ce moment, tu vis dans un appartement, peut-être dans des conditions peut-être qui, des fois, sont difficiles. Et tu dis même, à l'âge que je serais rendu, je pensais que j'aurais pu être en moyen d'avoir une maison, d'offrir des meilleures conditions de vie à ma famille. Mais en ce moment, financièrement, c'est difficile. Peut-être que tu es ici ce matin et tu es célibataire et tu tardes à trouver ton mari, ta femme. Et tu dis, il me semble qu'à l'âge que je serais rendu, j'aurais déjà trouvé ma femme, j'aurais déjà fondé une famille, mais je tarde à trouver le bon ou la bonne. Ou peut-être que tu es ici ce matin et tu es en couple, tu es marié, mais ton mariage ne se passe pas comme prévu. Il y a des tensions, c'est difficile. Et tu dis à Thomas, moi il me semble que lorsque j'ai dit oui à l'hôtel, c'est pas ce type de mariage-là que j'avais en tête. J'avais pas en tête autant de difficultés, autant d'épreuves, autant de conflits, autant de souffrances. Peut-être que ici ce matin, tes parents et tu as des enfants. Et toi, tes enfants, en ce moment, ils sont loin du Seigneur. Et tu dis, man, moi, ce n'est pas ça que j'avais prévu en tête pour mes enfants. Moi, je rêvais d'élever mes enfants dans le Seigneur, qu'on puisse aller à l'église ensemble, qu'on puisse servir ensemble le Seigneur. Mais en ce moment, ils sont à des millions de kilomètres du cœur de Dieu. Ils sont dans toutes sortes de comportements qui les détruisent. Et je pensais qu'ils seraient revenus à Dieu à l'âge qu'ils sont, mais ils tardent à revenir. Et ça ne se passe pas comme prévu. Peut-être que tu es là ce matin et toi, tu souffres dans ton corps. T'es malade et tu dis, c'est pas ça que j'avais prévu dans ma vie. J'ai tellement de souffrance, j'ai tellement de douleur, je pensais pas que j'allais être autant handicapé par la douleur, par la souffrance. Il y en a d'autres ici, t'es dans un désert spirituel où t'as l'impression que ta vie spirituelle ne décolle pas. Alors que tu pries, t'as l'impression que Dieu ne t'entend pas, t'as l'impression que tu parles tout seul. Lorsque tu lis la Bible, t'as l'impression que Dieu ne te parle pas. Tu lis toujours avec les mêmes combats, avec les mêmes addictions. T'as l'impression que t'arrives pas à expérimenter la liberté que Dieu a pour toi. T'as l'impression que les autres vivent une intimité avec Dieu, vivent des choses fortes à l'église. Puis toi, t'as l'impression que Dieu ne se préoccupe pas de toi. Il me semblait que ma vie serait différente. L'impression que les choses ne se passent pas comme prévu. Que faire lorsque tout ne se passe pas comme prévu? J'irai même plus loin. Que faire lorsque le monde, notre monde à nous, semble s'écrouler sous nos yeux? Pour répondre à cette question, nous allons regarder aujourd'hui à l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul. On va regarder à l'apôtre Paul. Et pour ceux qui sont un peu plus nouveaux avec nous, l'apôtre Paul, c'est un des hommes les plus influents de l'histoire du christianisme. C'est celui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Et Paul, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un de rêve. C'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a de la drive, c'est quelqu'un de projet. Et un des rêves qu'il avait le plus sur son cœur, Paul, c'était de visiter Rome. Non seulement parce qu'il était un citoyen romain, mais également parce que Paul, son désir le plus grand, c'était de prêcher l'évangile et que le royaume puisse avancer au maximum. Et à l'époque, Rome était la ville la plus influente de l'époque. Et Paul était très stratégique. Il savait que s'il réussissait à percer à Rome, s'il réussissait à faire propager l'évangile, que l'évangile explosait à Rome, ça allait rejoindre le monde entier. Et ce rêve-là, il était vraiment cher à son cœur. Et lorsque tu lis les lettres de Paul, tu t'aperçois vraiment que c'est vraiment un rêve qu'il avait sur son cœur. On peut voir comme à un moment donné, il envoie une lettre aux Romains, à l'Église, aux chrétiens qui sont à Rome, et il leur dit ceci. « Demandant toutes les fois que je prie, si de quelque manière je ne serai pas une fois enfin heureusement amené par la volonté de Dieu à aller chez vous. Car je désire ardemment vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Il continue plus loin et il rajoute ceci. « Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller chez vous, et j'en étais empêché jusqu'ici, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi bien d'autres peuples. Ainsi, mon vif désir est de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » On voit à quel point son désir d'aller à Rome est grand, mais on voit également à quel point ça semble être compliqué. À de nombreuses reprises, il a essayé d'aller à Rome, mais chaque fois sans succès. À chaque fois, c'était des échecs. Et parfois, c'était à cause de la persécution, parce que Paul vivait dans un contexte, dans une culture où l'évangile et le christianisme n'étaient pas acceptés. Tu pouvais littéralement te faire mettre en prison. Certaines même ont perdu la vie à cause de l'évangile. Donc des fois, parce que c'était trop dangereux, ça a retardé ses voyages. Mais parfois, c'était aussi Dieu. Dieu qui lui disait, hey, Paul, je te promets qu'un jour, tu vas aller à Rome. Puis Dieu lui avait fait la promesse. Je te donne la conviction, je te fais la promesse qu'un jour tu vas aller prêcher à Rome. Mais pour l'instant, je t'appelle à aller ailleurs parce qu'il y a d'autres besoins ailleurs. À chaque fois, son rêve, son voyage était retardé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il finisse enfin par y arriver après de nombreuses années. Mais il ira à Rome, pas de la manière dont il s'attendait, ni dans le timing qu'il s'attendait. Et c'est mon premier point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Comment réagir lorsque tout ne se passe pas comme prévu? Premièrement, réalise que ses voies sont meilleures. Parce qu'on retrouve Paul plus de 20 ans plus tard, après avoir reçu le rêve d'aller à Rome pour prêcher l'évangile, on le retrouve 20 ans plus tard, enfin ça y est. Il va aller à Rome, il va aller prêcher l'évangile, mais il va aller à Rome pas comme il voulait. Il va aller à Rome en tant que prisonnier pour se faire juger. Dieu a accompli sa promesse, mais pas exactement comme il pensait et vraiment pas dans le timing qu'il voulait. Et si on est honnête, bien souvent c'est ce qui se passe dans nos vies avec Dieu. Ses plans ne sont pas toujours nos plans. Et son timing est rarement, pour ne dire jamais, notre timing. Et petit moment de confession ce matin, la volonté de Dieu n'est pas toujours facile à accepter ni à comprendre. Et moi, je fais partie des personnes qui aiment tout comprendre et tout contrôler avant d'obéir, avant de faire quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Moi, j'étais le genre d'enfant très agréable lorsque j'étais petit, où je demandais toujours pourquoi. À chaque fois que mes parents me demandaient de faire quelque chose, je demandais toujours pourquoi. Pourquoi je dois me coucher à cette heure-ci alors que j'ai pas école demain? Pourquoi est-ce que je dois manger des brocolis alors que j'aime pas ça? Pourquoi? Et face aux réponses de mes parents, j'étais là, moi j'avais, je devais avoir 7-8 ans, je disais pourquoi mes parents, et face aux réponses que les parents allaient me donner, j'analysais la pertinence de leurs arguments pour décider si j'allais leur obéir et leur faire confiance et vraiment leur obéir. Mon problème, c'est que j'ai amené cette manière de penser-là dans ma foi. Où pendant longtemps, je me suis dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, j'ai l'obligation et j'ai même le droit de comprendre pourquoi Dieu permet ce qu'il permet dans ma vie avant de décider si je vais décider de lui faire confiance et si je vais continuer de lui obéir. De dire, ok Seigneur, tu permets quelque chose dans ma vie en ce moment, c'est pas ce que j'avais prévu. Donne-moi tes raisons, donne-moi tes arguments et si ça a du sens, je vais continuer à t'obéir, je vais continuer à te suivre. Naïf, vous allez me dire. Parce que lorsque l'épreuve arrive, lorsque l'épreuve frappe et que tout le plan, la volonté que tu avais de Dieu explose en 1000 morceaux, là, tu es face à une décision. Maintenant que Dieu a permis, maintenant que je ne comprends pas la volonté de Dieu, maintenant que Dieu permet des choses que je ne comprends pas, j'irai même plus loin. Maintenant que je ne suis pas d'accord avec ce que Dieu permet dans ma vie, quelle va être ma réaction? Est-ce que je vais continuer à lui obéir? Est-ce que je vais continuer à le suivre? ou est-ce que ça va être le temps de lui dire adieu? Et c'est à ces moments-là, en fait, que notre obéissance prend tout son sens. Parce que le moment où vous allez voir si vos enfants sont obéissants, ce n'est pas lorsque vous leur demandez de faire quelque chose qu'ils aiment. Ok, par exemple, après cette réunion-là, si vous leur dites « Ok les enfants, oubliez les brocolis à midi, tout le monde va au McDo. » S'ils décident de venir avec vous, ce n'est pas de l'obéissance, c'est littéralement leur rêve qui devient réalité. Et profitez-en parce qu'à cet âge-là, les rêves, ça ne coûte pas trop cher. Quoique les prix du McDo ont augmenté. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a vraiment un côté où si tu veux vraiment voir si tes enfants sont obéissants, demande-leur de ranger leur chambre ou de faire la vaisselle. Parce qu'à ce moment-là, vous allez leur demander quelque chose qui va à l'encontre de leur volonté, et même surtout pour les petits gars, j'irai même plus loin, qui va à l'encontre de leur compréhension. Pourquoi ranger ma chambre? Il y a vraiment un côté où, à ce moment-là, lorsqu'on est contre notre volonté, lorsqu'on ne comprend pas tout, c'est là où l'obéissance prend tout son sens. Et j'ai remarqué que, je réalise que bien souvent, c'est tellement facile pour nous de suivre Dieu seulement quand ça va dans notre sens. Tant que les choses vont plus ou moins comme je le pensais, je te fais confiance, je t'obéis. Tu sais quoi même? Seigneur, je suis prêt à faire quelques sacrifices pour toi. Ouais, moi je suis spirituel comme ça. Je suis prêt vraiment à aller à contre-courant, à faire quelques sacrifices, tant et aussi longtemps que les choses vont dans mon sens. Mais lorsque plus rien ne se passe comme prévu, là on est tenté de se séparer de Dieu, de l'abandonner, comme de le virer comme s'il était notre employé, de dire « Seigneur, ça fait tellement longtemps que je te prie pour cette situation-là, malheureusement les délais n'ont pas été respectés, je vais devoir te laisser aller. Mais je vais te donner quand même à 2 semaines de préavis. » C'est comme on a la tentation de traiter Dieu comme s'il était notre employé. Mais combien savent ici que Dieu n'est pas notre employé, il est notre Seigneur? Est-ce que je peux entendre un amen à ça? C'est pour ça qu'un grand théologien a dit ceci. C'est seulement quand ton Dieu t'outrage et te dérange que tu sais que tu adores le vrai Dieu et non un produit de ton imagination. Lorsque tu suis le vrai Dieu, là, il va y avoir des moments de frustration. Il va y avoir des moments d'incompréhension, il va y avoir des moments où tu ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est bon signe, parce que ça veut dire au moins que le Dieu que tu suis, ce n'est pas juste toi, ce n'est pas juste une extension de toi-même, un génie que tu t'es créé toi-même qui est toujours en accord avec toi. Donc premièrement, c'est bon signe. Et deuxièmement, c'est rassurant. Parce qu'en tant qu'être humain, on est limité. On est limité dans notre connaissance, on est limité dans notre intelligence, on est limité dans notre sagesse, et même on est limité dans notre moralité. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que l'entrée du péché dans le monde est venue corrompre notre moralité. Le bien qu'on veut faire, on ne le fait pas. Et le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait. Alors imaginez un instant, si Dieu était toujours en accord avec notre volonté, nos plans, nos timings, finalement ça serait notre pire cauchemar. Parce que ça voudrait dire que notre Dieu, il n'est pas plus grand que nous. Mais combien savent que notre Dieu est infiniment grand? Il est saint, il est parfait, il est tout puissant, il a toute connaissance, il sait tout, il est parfait. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à un abandon, à une dynamique de foi et de confiance. Dieu veut vraiment nous libérer de la dépense d'énergie et de l'anxiété qui vient lorsqu'on essaye de lui faire exactement ce qu'on veut, comme on veut, dans le timing qu'on veut. Dieu finalement nous appelle à le traiter, pas comme notre employé, même pas comme notre partenaire d'affaires, mais comme notre Dieu, comme celui qui sait tout et qui peut tout. Et c'est ce qu'a fait Paul. Moi, une des choses qui m'inspire le plus chez l'apôtre Paul, c'est sa capacité à faire passer la volonté de Dieu avant la sienne. Je vous ai dit tout à l'heure, Paul, il a écrit un bon nombre de textes du Nouveau Testament. Et l'une de ses phrases les plus populaires, qui est même devenue un chant, c'est lui qui déclarera à un moment donné, « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en... » C'est bon, vous êtes toujours avec moi. « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tellement profonde cette parole-là. Il dit en fait, la volonté qui compte le plus maintenant pour ma vie, c'est même pas la mienne, c'est celle de Dieu, parce que celle de Dieu est infiniment meilleure que ma propre volonté pour ma propre vie. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Et alors que Paul s'abandonne à la volonté de Dieu, on le retrouve des années plus tard en prison. On le retrouve des années plus tard en prison, et le Paul qu'on retrouve en prison, c'est pas un Paul qui est aigri, c'est pas un Paul qui est rempli de frustration, de dire « voilà, c'est ça ma récompense. Je suis Dieu, j'obéis Dieu, et voilà comment on me récompense. » Des années de prison dans des conditions extrêmement difficiles. Non, non, non. On retrouve un Paul rempli de foi, rempli de joie, rempli de paix, et même rempli de reconnaissance pour la souveraineté de Dieu. Voici ce qu'il dira. Il enverra une lettre à des chrétiens qui l'encouragera, alors que c'est lui qui est en prison, il dira ceci. Je tiens à ce que vous le sachiez, frère. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Paul, il dit, ok, je vais être honnête avec vous, c'est pas la manière dont je pensais aller à Rome. Mais contre toute attente, Dieu savait vraiment ce qu'il faisait. Alors que le rêve suprême que Dieu m'avait donné, c'était de prêcher l'évangile à Rome, que le royaume de Dieu avance, alors que je suis en prison, je suis dans la garde prétorienne qui me permet de prêcher l'évangile à tous les visiteurs et à tous les gardes, des personnes à qui j'aurais jamais pu prêcher si j'avais été en liberté. Et comme ça ne suffisait pas, mon emprisonnement, au lieu de décourager les frères à Rome, les frères et sœurs qui sont à Rome, en se disant « ça y est, on est fini, le grand apôtre Paul est en prison », au lieu de les décourager, ça les a encouragés. Les gars sont encore plus remplis de passion, sont encore plus remplis de zèle. C'est limite moi qui dois leur dire hey, « calmez-vous gars, il y a quand même la persécution derrière ». Les gars sont remplis de passion et de zèle, ils sont en feu pour Dieu. Est-ce que Paul ne savait pas ? C'est qu'alors qu'il est dans cette prison-là et qu'il envoie cette lettre aux Philippiens, cette lettre-là sera une bénédiction, oui, pour les chrétiens de cette époque-là, mais ce sera également une bénédiction incroyable pour tous les chrétiens, pour des centaines de millions de chrétiens à travers l'histoire. Parce que dans cette prison-là, alors qu'il est dans les pires circonstances au monde, il fera cette épître-là qu'on appelle l'épître de la joie, tellement le thème de la joie est prédominant, et ça sera un signe d'espoir pour tous les chrétiens de toutes les générations, que même au milieu de tes épreuves, même au milieu de tes tempêtes, même au milieu de tes pires circonstances, Dieu est avec toi, il y a une paix, une joie qui est disponible. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui est là et qui combat pour nous? Qui même dans les pires moments de notre vie, il est là pour nous et peut nous donner une paix et une joie. Paul avait un plan, il avait une volonté, il s'est dit, il avait des rêves, si seulement je peux aller à Rome, prêcher l'évangile et faire avancer le royaume de Dieu de cette manière-là, ça serait extraordinaire. Si seulement je peux avoir cet impact-là. Et Dieu l'a regardé, il a dit « Ok, c'est super ton plan, Paul. Mais si au lieu d'avoir cet impact-là, tu avais cet impact-là. Mais pour avoir cet impact-là, il ne faut pas qu'on aille selon ton plan à moi, il faut qu'on aille selon mon plan à moi. Et mon plan à moi, des fois, il va te poser problème. Des fois, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu me fais confiance, je vais te mener bien plus loin que ce que tu pouvais imaginer, penser ou même rêver. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne connais pas l'intensité de ta douleur, ni ça fait combien de temps que tu souffres. Mais j'aimerais te dire, basé sur la parole de Dieu, continue à faire confiance à Dieu. Continue à t'accrocher à Dieu parce que Dieu, il est avec toi. Il marche devant toi, il ne t'a pas abandonné. Même si en ce moment, toutes les circonstances de ta vie t'encouragent à penser le contraire, que Dieu t'a abandonné, j'aimerais te dire que ne te laisse pas mentir par tes émotions. Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi et il marche avec toi. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin ? Comment réagir face à l'imprévu ? Premièrement, réalise que ses voies sont meilleures. Deuxièmement, réalise à qui tu appartiens. Parce qu'alors que l'apôtre Paul est transféré à Rome en bateau, là, il y a une tempête qui frappe. Et le pire dans cette histoire, c'est que Paul, il le savait. Paul, c'était un missionnaire, ce qui fait qu'il avait l'habitude de voyager, il avait l'habitude de prendre la mer, tout ça. Et il avait prévenu tout le monde, il dit, si on part à cette époque-là de l'année, c'est sûr qu'il va y avoir une tempête, c'est sûr qu'on va être dans rien de bon. Et comme par hasard, personne ne l'écoute, et comme par hasard, quelques instants après qu'ils prennent la mer, il y a une tempête qui explose. Et là encore, au lieu de trouver un Paul qui est aigri, de dire, il n'y a personne qui m'écoute, au lieu de trouver un Paul qui râle, on trouve un Paul qui encourage tout le monde sur le bateau. Et il leur dit ceci, « En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit disant, ne crains point Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il m'en sera comme il m'a été dit. » Paul, il dit, il y a un ange qui est venu me parler là de la part de Dieu auquel j'appartiens et on va tous être sains et saufs, ne vous inquiétez pas. Et le langage qu'il utilise, il est super important. Il ne dit pas, il y a un Dieu auquel j'essaye d'appartenir qui est venu parler. Non, il y a un Dieu auquel j'appartiens. Et ça nous communique énormément de choses. Comme l'a dit Pasteur Jocelyn tout à l'heure, moi, une de mes responsabilités à Nouvelle Vie, c'est de prendre soin des ados. Je suis pasteur des ados et notre but, c'est de les défier, c'est de les challenger spirituellement, de les faire grandir spirituellement et surtout de nous assurer qu'ils comprennent le message de l'Évangile. Parce que s'ils comprennent le message de l'Évangile, ça va influencer et impacter toutes les autres sphères de leur vie. Et avec le temps, on a comme développé des techniques. On a développé des techniques pour s'assurer qu'ils ont bien compris le message de l'Évangile parce qu'il faut être créatif avec des ados si tu vas avoir des phrases qui durent plus de deux mots. Ok, tous les parents d'ados le savent. Et donc, on a développé une technique. Et une des techniques qu'on a développées, c'est une question qu'on leur pose pour les faire parler, pour voir c'est quoi leur compréhension. On fait une mise en situation avec eux. On leur dit, ok, admettons là, si Jésus revient aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, combien tu as de chances d'être sauvé et d'aller avec lui au ciel? Et leur réponse à cette question-là va nous donner énormément d'informations sur leur vision de qui est Dieu pour eux, de qui ils sont et de c'est quoi l'évangile. Et comme vous pouvez vous en douter, lorsque tu poses ce genre de questions-là à des ados, tu as le droit à des réponses légendaires. Tu as le droit à des réponses légendaires et il y a deux types de personnes. Il y a ce que j'appelle les plus audacieux, qui eux arrivent, puis en passant les ados, souvent ils aiment bien se donner un air encore plus spirituel. Ils me disent « Ok, intéressant Thomas, c'est pertinent ta question, laisse-moi y réfléchir. » Et ils me disent « Ok, sur une échelle de 0 à 10, moi honnêtement je pense 8,5, 9 sur 10. » Et là je pose la question « Ok, pourquoi ? Pourquoi 8,5, 9 sur 10 ?» Et là ils me disent « Bah, honnêtement Thomas, je viens à l'église quasiment chaque dimanche, chaque vendredi, je m'implique, je lis ma Bible tous les jours, je prie aussi avant d'aller me coucher tous les jours, j'ai même invité des gens à l'église. Bon, tu vois, je ne mets pas 10 parce qu'il y a juste Jésus qui est parfait, mais honnêtement, si Jésus arrive aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal de chances d'aller au ciel. » Ça, c'est les plus audacieux. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont un peu plus conscients de leurs limites, un peu plus conscients de leurs faiblesses et qui vont me dire « Ah Thomas, moi c'est plus... 2, 3 sur 10, parce que, tu sais, moi je suis pas régulier dans ma vie de prière, je prie pas souvent, je viens pas du tout à l'église, ça m'arrive de tricher à l'école, c'est les péchés des ados, hein. Ça m'arrive de faire toutes sortes de choses, et honnêtement, je pense que si Dieu y revient aujourd'hui, là, moi je pense que j'ai pas beaucoup de chance d'aller au ciel. Et mon objectif à travers cette mise en situation-là, c'est de leur faire comprendre qu'il y a seulement deux possibilités. C'est soit 0, soit 10, parce que être enfant de Dieu, c'est pas un processus, j'essaye de devenir enfant de Dieu en faisant des bonnes actions. Non. Être enfant de Dieu, c'est un statut. Je suis enfant de Dieu. Et ce statut-là, il n'a rien à voir avec mes œuvres à moi, il a tout à voir avec les œuvres de Jésus pour nous. Parce qu'il a vécu la vie parfaite que vous et moi, on était incapables de vivre. On peut avoir la vie éternelle. Parce qu'il a pris la punition que vous et moi, on méritait. Aujourd'hui, par la foi, en mettant notre confiance en lui, on peut devenir enfant de Dieu. On peut avoir la vie éternelle. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que notre relation avec lui n'a pas besoin d'être basée sur notre performance à nous, mais sur la grâce de Dieu. Ce qui fait que dans nos bons moments, quand on sent comme des 8, des 9 sur 10, ça nous empêche de nous enorgueillir. Mais dans nos pires moments, quand on sent un peu plus comme des 2, des 3 sur 10, ça nous empêche de marcher tête baissée en pensant que Dieu nous condamne et que Dieu nous a abandonnés. Et cette compréhension de l'évangile-là est hyper importante, surtout quand tu passes par des épreuves. Parce que si ta relation avec Dieu est basée sur ta performance, lorsque l'épreuve va frapper, il y a une de ces deux choses-là qui va se passer. Si tu te considères un peu plus comme un 8,5, un 9 sur 10, lorsque l'épreuve va frapper, tu vas être tenté de penser et même de dire à Dieu, « Seigneur, comment oses-tu ? Comment oses-tu me faire passer par ces épreuves-là ? Comment oses-tu me faire passer par ces épreuves-là ? Tu ne vois pas tout ce que je fais pour toi ? Tu ne vois pas à quel point je marche avec fidélité, à quel point je marche avec obéissance, tu ne vois pas tous les sacrifices que je fais, tu ne vois pas à quel point je donne à ton église financièrement, avec mon ministère, avec mon application, tu ne vois pas tout ce que je fais. Tu me donnes des épreuves extrêmement difficiles, alors que je vois des autres sur Instagram, c'est des 2-3 spirituels, mais eux, tout va bien dans leur vie. » La tentation d'être en colère contre Dieu, de finalement finir cynique, amer même contre la vie. Mais si, au contraire, toi, tu te vois un peu plus comme un 2, 3 sur 10, lorsque tu vas être frappé par l'épreuve, lorsque tu vas être frappé par la souffrance, tu vas avoir la tentation de te dire « ça y est, c'est Dieu qui me fait payer. C'est Dieu qui me fait payer pour toutes les erreurs que j'ai faites, pour tous les péchés passés que j'ai faits. C'est Dieu qui, ça y est, voilà, j'ai une maladie, voici, c'est Dieu qui me dit ah, « il ne fallait pas que tu ailles dans cette relation-là, il ne fallait pas que tu fasses cette chose-là, là je suis frappé par la maladie, ça y est. » Lorsque tu regardes l'apôtre Paul, il est dans aucun de ces deux extrêmes. Pourquoi ? Parce qu'il connaît son identité. Paul, il dit, moi, je ne peux pas être en colère contre Dieu. Parce que s'il me donnait vraiment ce que je méritais, ça serait vraiment pire que ça. Avec tout le mal que j'ai fait là, ça serait vraiment pire que ce que je vis en ce moment. Une tempête et un emprisonnement, je mérite vraiment pire que ça. Mais d'un autre côté, je sais que la tempête dans laquelle je suis, mon emprisonnement, ce n'est pas non plus Dieu qui est en train de me faire payer pour toutes mes mauvaises actions, pour tous mes péchés. Parce que la punition que je méritais, Jésus, il l'a déjà pris à la croix à ma place. Il l'a déjà pris à la croix à ma place. Et parce que sur la croix, il a traversé la plus grande des tempêtes et qu'il en est sorti victorieux, je sais qu'avec ce Dieu-là à mes côtés, il n'y a aucune épreuve, aucune difficulté qui pourrait être trop grande pour moi. Est-ce que je peux entendre un amen à ça ? Dieu, il est tout puissant, il est avec nous. Et lorsque tu comprends l'évangile, ça change tout. Ça change toute la manière dont tu vis ta foi. Le calme de Paul dans le bateau, l'assurance qu'il avait, venait du fait qu'il comprenait son identité. Et parce qu'il connaissait son identité, il pouvait s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il disait pas, non, ces promesses-là, elles sont pour d'autres. Ces promesses-là, elles sont pour moi. Oui, je suis pas parfait, mais parce que Jésus a tout accompli à ma place, je suis accessible à ces promesses. Et j'aimerais te dire que si tu es enfant de Dieu ce matin, il y a des promesses qui sont pour toi. La parole de Dieu nous dit qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Que des pires circonstances, Dieu est capable de faire sortir du pire quelque chose de beau, quelque chose de glorieux. Hébreux 13:5 nous a promis qu'on ne combattra jamais seul, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et là, tu es dans cette salle et en ce moment, tu as l'impression que tu as abandonné de tous. Tu as abandonné des gens et même tu as l'impression que tu as abandonné de Dieu. Que lorsque tu pries, il n'y a personne qui t'écoute, qu'il n'y a personne qui prend soin de toi. Ne te laisse pas mentir par tes émotions. Dieu est avec toi. Il t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Et ce n'est pas parce que tu sens rien que Dieu ne fait rien. Il est avec toi. Dieu nous a promis en Romains 8:38 que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Il y en a, tu es dans cette salle, tu dis, ouais, mais moi, je suis allé trop loin. J'ai trop fait d'erreurs, j'ai trop fait de gaffes, j'ai trop blessé de gens, j'ai trop blessé Dieu, je l'ai trop attristé. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien ni personne qui peut te séparer de son amour. Lorsque Jésus était sur cette croix-là, il avait connaissance de tes péchés passés, présents et futurs. Et il a quand même décidé d'aller au bout pour toi parce que son amour pour toi est infiniment grand. Ce qui veut dire que, Dieu ne peut plus être surpris par toi. Tu es pogné avec son amour. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Tu es pogné avec son amour. Et que ça soit la 10 000e fois ou la 20 000e fois que tu reviennes à Dieu, Dieu est quand même là, les bras grands ouverts. Et j'aimerais parler à toi également qui est là peut-être pour la première fois ce matin. Et tu dis, ouais, mais moi, je ne me suis jamais occupé de Dieu, je n'ai jamais pensé à Dieu. Est-ce que je peux venir? Oui. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et il t'attire à lui, il t'accueille et ses bras sont grands ouverts, remplis d'amour pour toi. Dieu nous a promis qu'un jour, tous ses enfants célébreront avec lui dans sa présence pour toujours. Qu'un jour, toutes les souffrances vont cesser. Qu'un jour, on sera libre et totalement libre. Dans la tempête, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Mais il nous appelle également à réaliser que nos choix comptent. Alors qu'on poursuit la lecture, Paul vient de recevoir cette promesse de la part de l'ange qui lui dit hey, « Vous inquiétez pas, tout le monde va être sain et sauf sur le bateau. » Sauf que la situation ne s'améliore pas. En fait, la situation empire, ça devient de plus en plus compliqué, la tempête est de plus en plus forte, et même là, la mer devient de moins en moins profonde, ce qui augmente les risques de s'écraser sur des rochers. Donc là, les marins, ceux qui étaient responsables de la navigation, ils commencent à paniquer. Ils commencent à se dire, ok, en ce moment, si on reste sur ce bateau-là, on est fini, on va tous mourir. Donc là, la meilleure chance qu'on a, c'est de partir à la nage et de les laisser pour morts. Et là, Paul, il voit les marins, les navigateurs qui sont en train de se préparer leurs affaires pour aller plonger et essayer de se sauver à la nage. Et là, il commence à aller voir un garde, il lui dit ceci. Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. En gros, il dit, si les marins partent, si les seuls qui savent comment naviguer ce bateau-là partent, on va tous mourir. Mais là, je regarde ce texte-là et je me dis, ok, mais Paul, tu te contredis un peu. Parce qu'à quelques instants, tu faisais l'homme de foi, un ange m'a parlé, il m'a dit que tout allait être correct, qu'il allait prendre soin de nous, qu'il allait nous sauver. Et là, tu vois les marins qui vont partir et tu capotes, tu dis, ok, s'ils partent, eux, on va tous mourir. Il faut savoir, Paul, est-ce que ça dépend de Dieu ou est-ce que ça dépend des hommes? Est-ce que Dieu, il est vraiment assez grand pour tous nous sauver? Ou c'est nous, il faut vraiment qu'on s'occupe de nos affaires et il faut qu'on fasse tout parfaitement pour être sauvés? Ça dépend de Dieu ou ça dépend des hommes? Et Paul ne se contredisait pas parce que c'est les deux. Parce que si Dieu détermine la fin, il détermine également les moyens. Paul, sur ce bateau-là, il ne leur a pas dit hey, « Si vous voulez quitter, partez, quittez, faites ce que vous voulez. De toute façon, Dieu nous a donné la promesse. Il nous a donné la promesse, quoi qu'il arrive, on va être sains et saufs, vous pouvez partir. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Ok, Dieu nous a fait une promesse, puis moi je crois en sa promesse, elle est oui et amen, elle va s'accomplir. Par contre, si vous agissez d'une manière irresponsable, là on va tous mourir. » Et c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est que Dieu il nous a promis qu'il prendrait soin de nous. Il nous a promis qu'en toutes circonstances, il y a une paix, il y a une joie qui sont disponibles pour nous. Mais la fin détermine, si Dieu détermine la fin, il détermine également les moyens. Il nous appelle à collaborer avec lui dans l'accomplissement de son plan pour nos vies. En d'autres mots, dans ton épreuve en ce moment, tes choix comptent. Tes choix en ce moment comptent. Les petites décisions que tu prends au quotidien, elles comptent et elles déterminent ton futur. Pour moi, ce passage vient contrer ce que j'appelle les deux types de passivité. Ce que j'appelle la passivité optimiste et la passivité pessimiste. Le passif optimiste, il se dit, moi, de toute façon, Dieu m'a promis qu'il allait prendre soin de moi, que tout concourt à mon bien, donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Je peux aller à droite, je peux aller à gauche, Dieu m'a promis qu'il y a une joie, une paix qui est disponible pour moi, c'est incroyable. Le pasteur, il vient de m'énumérer plein de promesses qui sont disponibles pour moi, j'ai bien compris, être enfant de Dieu, c'est pas un processus, c'est un statut, j'ai ce statut, c'est extraordinaire, et comme ça suffisait pas, Dieu, il connaît mes péchés passés, présents et futurs, et même quand même, c'est la meilleure nouvelle de la journée, je peux faire ce que je veux et Dieu va prendre soin de moi et je vais avoir accès à ses promesses, une paix, une joie en toutes circonstances, ça va être incroyable. Ça, c'est le passif optimiste. Mais d'un autre côté, il y a le passif pessimiste qui lui se dit, ouais, mais ça donne quoi? Moi, je marche dans la fidélité, je marche dans l'obéissance, je fais toutes sortes de sacrifices et ma vie, c'est quand même une succession d'épreuves. Qu'est-ce que ça donne d'obéir Dieu? Tu sais quoi là? Je vais juste abandonner. Juste pour voir, je vais juste abandonner, je vais juste arrêter de suivre Dieu, parce que tu sais quoi, de toute façon, je ne peux pas tomber plus bas. Ma vie est tellement un enfer en ce moment, ma vie c'est tellement juste des épreuves, que tu sais quoi, je vais juste abandonner parce que je ne peux pas tomber plus bas. J'aimerais vous dire qu'à bord de ce bateau-là, il n'y avait personne qui avait plus foi et confiance dans les promesses de Dieu que Paul. Il n'y avait personne, mais dans un même temps, il n'y avait personne de plus proactif et de vigilant sur le bateau pour s'en sortir. Parce que si Dieu détermine la fin, qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout concourt à notre bien, qu'une paix et une force surnaturelle est disponible pour nous malgré les épreuves, il détermine aussi les moyens. Et les moyens pour ça, c'est qu'on lui fasse confiance. Les moyens pour ça, c'est qu'on marche avec lui. Vous avez remarqué, hein, j'ai dit marcher avec lui et non courir avec lui. Parce qu'on peut tomber dans un autre extrême. Moi, pendant longtemps, j'ai considéré ma relation avec Dieu comme un sprint. Je me disais, ok, là, je vais mettre toutes sortes de stratégies, toutes sortes de disciplines spirituelles pour changer mon caractère, pour me faire devenir une meilleure personne. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'en plus, moi, je suis hyper compétitif. Ce qui fait que je me mettais des objectifs. Je me disais, ok, là, pendant 6 mois, je vais jeûner tant de jours par mois. Je vais avoir tant d'heures de prière par semaine. Je vais tellement être discipliné, ça va tellement être extraordinaire que toutes mes failles de caractère vont être gommées. Et watch out, dans 6 mois, là, je vais tellement avoir le cœur de Dieu. Je vais tellement être rempli du Saint-Esprit que les gens vont dire, oh, waouh, j'ai l'impression que c'est Jésus en métis. Je me dis, waouh, ça va être incroyable. Ça, c'est ce que je me disais. Et au bout de 6 mois, étant donné que les choses n'avançaient pas comme je voulais, je devenais le passif pessimiste. Je me disais, Thomas, ça donne quoi? Regarde, à quoi tu joues? Tu fais le gars spirituel qui prie, qui lit sa Bible, qui jeûne. Regarde ton cœur. T'es toujours aussi mauvais. T'es toujours aussi égoïste. Tu blesses toujours autant les gens autour de toi. Ça donne quoi? C'est arrête, tu ne pourras jamais changer. Mais un jour, quelqu'un m'a dit la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et on peut faire ça aussi avec Dieu. S'attendre à ce que tout soit réglé instantanément. Nos problèmes, nos relations, nos failles de caractère. Mais bien souvent, les choses prennent plus de temps. C'est pourquoi Dieu ne nous appelle pas à un sprint avec lui, il nous appelle à une marche. Dans la Bible, l'expression « marcher avec Dieu » est utilisée à plusieurs reprises pour décrire une relation proche, intime avec Dieu. C'est une expression qui a été utilisée pour parler de Noé. Genèse 6:9. Noé était un homme juste, irréprochable dans sa génération. Noé a marché avec Dieu. Une invitation lancée également à Abraham, qui était tellement proche de Dieu qu'on le surnommera l'ami de Dieu. Genèse 17:1. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Et encore aujourd'hui, Dieu appelle chacun d'entre nous à une marche avec lui. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on veut que les choses aillent vite. Avec l'intelligence artificielle, on veut avoir des secrets, des techniques pour faire tout plus rapidement. On veut devenir riche plus rapidement, on veut perdre du poids plus rapidement, on veut gravir les échelons de la société et de notre travail plus rapidement. Et dans ce contexte-là où tout va plus vite, il y a un Dieu qui est totalement hors du temps, qui nous invite à une marche avec lui. Et marcher, ça n'a rien d'extraordinaire. Marcher, c'est rien de révolutionnaire. Mais marcher, c'est quelque chose qui est caractérisé par des progrès qui sont lents. Qui sont réguliers, hein, mais qui sont lents. Marcher, c'est quoi? C'est continuer à prier jour après jour, même lorsque tu sens rien. Marcher, c'est continuer à lire ta Bible, même si elle ne semble plus avoir de sens à cause des circonstances qui t'entourent. Marcher, c'est continuer à servir. Marcher, c'est continuer à obéir. Marcher, c'est continuer à servir ton époux, ton épouse, même si les papillons ne sont plus là. Marcher, c'est continuer à obéir à Dieu dans les choses les plus simples qu'il te demande. Marcher en soi, ça n'a rien de révolutionnaire. Et ça signifie bien souvent qu'au milieu de tes tempêtes, Dieu ne va pas régler les choses forcément en un claquement de doigts. Que Dieu ne va pas forcément répondre à tes questions en un claquement de doigts, en en un seul instant. Bien que parfois, dans sa grâce, Dieu nous permet d'avoir des révélations et Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, comprenez-moi bien. Dieu guérit encore aujourd'hui, Dieu est capable de changer n'importe quel diagnostic, Dieu est capable de te libérer d'addiction, de chaînes, mais bien souvent, il manifeste sa grâce en nous permettant de marcher une journée à la fois. Amen. Marcher en soi, ça n'a rien de révolutionnaire. Et à toi qui peut-être es dans cette salle et tu dis, ouais, mais moi je marche là, mais c'est difficile là. C'est difficile juste de continuer à marcher. Il y a quelques mois, je suis tombé sur un livre qui m'a beaucoup parlé, un livre de Max Lucado, du pasteur Max Lucado, qui est un pasteur aux États-Unis qui a vécu énormément d'épreuves dans sa vie. Et dans ce livre-là, il y avait comme une citation, deux, trois, quatre phrases qui revenaient régulièrement dans le livre. Et c'est des phrases qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Et c'est des phrases sur lesquelles tu peux te dire... Ce matin-là, c'est Dieu qui me parle. Alors que je vais lire cette citation-là, si tu passes en ce moment par un moment de souffrance, tu peux prendre ces phrases-là et te dire, ces phrases-là elles viennent directement du cœur de Dieu parce que ces phrases-là sont basées sur les promesses de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu as le droit et tu as accès à ces promesses-là. Et voici ce qu'il dit. Tu vas passer au travers. Ce ne sera pas sans douleur. Ce ne sera pas forcément rapide. Mais Dieu utilisera cette épreuve pour ton bien. En attendant, ne sois pas stupide ou naïf. Tes choix comptent. Mais ne désespère pas non plus. Avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir. Comment tenir ferme dans l'épreuve? Premièrement, réalise que ses voies sont meilleures. Deuxièmement, réalise à qui tu appartiens. Troisièmement, réalise que tes choix comptent. Et finalement, réalise que Dieu veut se servir de toi même dans la tempête. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Paul a toutes les raisons, absolument toutes les raisons, d'être aigri et de se positionner en tant que victime. De dire, je suis emprisonné injustement. On m'emmène à Rome, je préviens tout le monde qu'il va y avoir une tempête, il n'y a personne qui m'écoute, on tombe dans une tempête, c'est quoi ça? Moi honnêtement, si j'étais à la place de Paul là, moi j'aurais vraiment râlé. Honnêtement, si je suis honnête avec vous là, ça aurait été tellement facile pour moi de juste râler. En plus je suis français, apparemment les français on a la réputation d'être râleurs, je ne sais pas si c'est vrai, je sais que c'est vrai. Mais il y a un côté où moi j'aurais juste râlé de dire, mais il me semble que je fais tout comme il faut et c'est juste une succession de malchances, d'épreuves. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que Paul ne se positionne pas en tant que victime. Plus le récit avance, plus Dieu l'utilise et à la fin, c'est lui qui donne les consignes à tout le monde. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. Et c'est lui qui encourage tout le monde. Actes 27, 33, 35 nous dit ceci. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente, sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Dieu peut et veut se servir de toi dans ta tempête. J'irai même plus loin. Ta tempête en ce moment, les délais que tu vis, la souffrance que tu expérimentes, elle te qualifie plus que jamais pour être utilisé puissamment par Dieu. Parce qu'une des raisons pour laquelle Paul était d'une si grande aide sur ce bateau, c'est oui, parce qu'un ange est venu lui parler, oui, parce que la main de Dieu était sur lui, parce que la faveur de Dieu était sur lui. Mais une des autres raisons aussi pour laquelle il était d'une si grande aide, c'était qu'à ce moment-là, Paul, il avait déjà vécu 3 naufrages dans sa vie, c'était son 4e. C'était devenu la routine pour lui. C'était devenu un expert du naufrage. Il était là, guys, vous paniquez, come on. Tout le monde était en train de stresser. Lui, il était, j'en ai vu des pires. Toi, tu pars à la nage, viens là. Viens là, ça va bien se passer, je vais prendre soin de toi. Paul, son expérience l'a permis d'être une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ce que Dieu fait. Il prend nos lieux de défaite, il prend nos lieux de honte, il prend nos lieux de blessure et de souffrance pour faire de nous une source de bénédiction pour les personnes qui nous entourent. Est-ce que je peux entendre amen à ça? C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Il l'a fait pour Paul dans ce bateau. Il l'a fait pour Jésus à la croix qui a souffert le martyr mais qui est devenu la porte pour le salut à l'humanité et veut le faire dans ta situation ce matin. Voici ce que le pasteur Tim Keller dit au sujet des bénéfices de la souffrance. Pensez à 4 choses que nous voulons tous. Voulez-vous savoir qui vous êtes, vos forces et vos faiblesses? Voulez-vous être une personne compatissante qui aide habilement les personnes qui souffrent? Voulez-vous avoir une confiance si profonde en Dieu que vous soyez fortifié contre n'importe quelle déception de la vie? Voulez-vous tout simplement être sage? Ce sont 4 qualités cruciales à posséder, mais aucune d'entre elles n'est atteignable sans souffrance. Il n'y a aucun moyen de savoir qui vous êtes vraiment avant d'avoir subi un test. Il n'y a aucun moyen de vraiment faire preuve d'empathie et de sympathie envers d'autres personnes qui souffrent, à moins d'avoir soi-même souffert. Il n'y a aucun moyen d'apprendre vraiment à faire confiance à Dieu jusqu'à ce que vous vous noyez. À toi qui souffres ce matin, sois encouragé, parce qu'alors que tu remets ta peine à Dieu, alors que tu remets tes douleurs, alors que tu remets ton impatience à Dieu, Dieu est en train de te façonner de l'intérieur. Dieu est en train de révolutionner ta vie. Et peut-être que tu n'y crois pas en ce moment, tu dis non, moi Thomas, en ce moment-là, je passe par l'épreuve et ce qui sort de moi là, c'est juste le pire de moi en ce moment, c'est juste difficile, il y a juste des choses négatives qui sortent de moi. Ouais, mais peut-être que c'est des choses qui doivent sortir. J'aimerais te dire qu'alors que tu t'accroches à Dieu, Dieu est en train de révolutionner ta foi, de t'amener dans une nouvelle dimension, de t'amener bien plus loin que ce que tu pouvais penser ou même imaginer. Mais pour ça, il faut que tu restes accroché à Dieu. Je vous laisse avec un dernier témoignage. Dernièrement, j'ai étudié la vie d'un missionnaire britannique qui a eu énormément d'influence dans le christianisme, qui s'appelle Hudson Taylor. Hudson Taylor, peut-être il y en a certains d'entre vous qui le connaissent, il a consacré plus de 50 ans de sa vie à l'évangélisation et à la mission en Chine. Il a littéralement révolutionné la manière de faire la mission. Il a inspiré des ministères comme celui de Billy Graham. Son organisation est devenue l'une des plus grandes organisations missionnaires en Chine et elle a contribué à la conversion de milliers et de milliers de Chinois. Il a laissé un héritage incroyable, faisant de lui un des missionnaires les plus influents de l'histoire du christianisme. Mais lorsque tu regardes sa vie là, c'est juste une succession d'épreuves. Tout au long de sa vie, il a souffert de la maladie, de la pauvreté, le deuil où il a perdu notamment 5 de ses enfants, 3 à la naissance et 2 dans leur enfance. C'était une autre époque au niveau de la médecine, mais imaginez-vous un seul instant perdre 5 de ses enfants. Et comme ça ne suffisait pas, à l'âge de 38 ans seulement, il a perdu son épouse. Lorsque je lisais ça, je me dis waouh, une vie consacrée à suivre Dieu, une vie consacrée à vivre pour lui, mais une vie quand même marquée par des épreuves. Et en toute transparence, ce matin, je me suis posé la question, je me suis dit mais comment il a fait ? Comment il a fait pour vivre toutes ces épreuves-là sans être amer, sans être cynique, sans même être en colère contre Dieu? Et je pense que comme l'apôtre Paul, il avait la faveur de Dieu, Dieu lui a donné une paix, une joie surnaturelle, il y avait quelque chose de miraculeux sur sa vie. Mais je crois aussi avoir eu un élément de réponse à travers une des lettres qu'il a envoyées à sa sœur alors qu'il était au plein milieu de ses épreuves, où il leur dira ceci, Si je possédais 1000 livres sterling, la Chine devrait les avoir. Si j'avais 1000 vies, la Chine pourrait réclamer chacune d'elles. Non pas la Chine, mais Christ. Pouvons-nous faire trop pour lui? Pouvons-nous faire assez pour un tel sauveur? Même après toutes ces épreuves-là, son discours n'était pas « Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, non. Après tout ce que toi, tu as fait pour moi. Si j'avais 1000 vies, tu pourrais réclamer chacune d'elles. Si j'avais 1 million de dollars, tu pourrais réclamer chacun d'entre eux et ça n'arriverait même pas à la cheville de tout ce que tu as accompli pour moi. » Tellement captivé et émerveillé par la grandeur de Dieu, que son âme a pu être restaurée, que son âme a pu être guérie, que son âme a pu être relevée et que lui, il a pu être une source de bénédiction extraordinaire pour les personnes qui l'entouraient. Et face à nos défis, face à nos épreuves, on a 2 options. Regardez à nous, regardez à nos choix, regardez à nos peines, regardez à notre douleur, regardez aux injustices qu'on a vécues. On a le choix de regarder à lui et de lever les yeux et de regarder sa bonté, sa fidélité, sa grâce envers nous, ses promesses, et de dire « Seigneur, moi ces promesses-là, je vais m'en saisir, ces promesses-là, elles vont être pour moi. C'est pas vrai que cette épreuve-là va avoir le dernier mot, c'est toi dans ma vie qui va avoir le dernier mot. » Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Regarde à lui ce matin, t'as le choix. Regarde à lui ce matin, tu vas passer au travers. Ce ne sera pas sans douleur et ce ne sera pas forcément rapide. Mais Dieu utilisera cette épreuve pour ton bien. En attendant, ne sois pas stupide ou naïf, mais ne désespère pas non plus. Avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir. Est-ce que je peux entendre un dernier grand amen, nouvelle vie pour ce Dieu qui est tout puissant? Laissez-moi prier pour vous, Seigneur Jésus. On vient devant toi ce matin. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu vois, toutes ces personnes qui peut-être sont dans ce lieu et passent par des délais, passent par des souffrances, passent par des épreuves. Seigneur, je te prie de venir les renouveler. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci de ce que dans nos épreuves, dans nos délais, on peut s'appuyer sur tes promesses. On peut s'appuyer sur ta fidélité. De ce que tout concourt à notre bien parce qu'on est tes enfants, parce qu'on t'appartient, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu as tout donné pour nous, Seigneur Dieu. Et en retour, Seigneur Jésus, on veut tout donner pour toi. Seigneur Jésus, je te prie de remplir ce lieu de ta présence, Seigneur Dieu. De commencer à redonner espoir à celui qui l'a perdu. De revenir donner paix à celui qui l'a perdu. Seigneur Jésus, viens relever, viens rebâtir. rebâtir, viens reconstruire. Oh, tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur Jésus, c'est juste le commencement. Alors aide-nous à te faire confiance, même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsqu'on ne voit pas, parce que toi, tu es là. Et tu connais déjà la fin du film, et c'est nous qui gagnons. Pourquoi ? Parce qu'on t'appartient. Alors merci d'avance pour ce que tu vas accomplir dans les vies. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Est-ce qu'on peut dire un amen et se lever et donner une ovation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs ? Alléluia. Et on va prendre ce chant qu'on puisse le déclarer comme une prière. Et les paroles sont tellement en lien avec ce que je viens de prêcher. Les paroles disent ceci: j'ai cet espoir, tel un ancre dans mon âme, pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans la tempête, je regarde pas à moi. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Parce que tu es celui qui peut me sauver. Tu es celui qui peut me délivrer. Tu es celui qui peut me relever. Alors ce matin, garde tes yeux fixés sur Jésus et appuie-toi sur lui. Chantons ensemble.